Bonjour. Au nom du bureau Bunk, je représente aujourd'hui. C'est un bureau que j'ai fondé avec trois associés, Philippe Glore, Laurent Gaille et Cyril Lecoultre, en 2007. Donc je remercie au nom de ce bureau cette invitation. C'est toujours un honneur pour nous de pouvoir présenter nos projets. Voilà, je vais commencer par cette image, peut-être pour dire que on n'est pas du tout des spécialistes du bois, donc je ne peux pas me présenter ici comme un spécialiste du bois. En revanche, ce qui nous intéresse comme architectes, c'est d'être des constructeurs. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image de l'homo faber, au sens de Henri Bergson, c'est-à-dire celui qui fabrique des outils, avec cette idée que quand on fabrique des outils, les outils nous fabriquent également. Donc voilà, nous on construit notre environnement, l'environnement nous construit, donc la réflexion de la construction est vraiment au cœur de notre travail et de nos projets, tant sur les modes de fabrication que sur l'expression architecturale que la construction représente. Je vais présenter donc trois petits projets, je pense que je vais aller assez vite, donc peut-être qu'on pourra discuter de ces projets aussi plus loin. Le premier, c'est un projet à Sainte-Croix pour un menuisier qui part à la retraite. Donc, c'est un menuisier qui a sa menuiserie ici. Et puis, il la remet à son fils. Et dans son jardin, il aimerait construire une petite maison pour lui et sa femme pour sa retraite. Donc, le projet, c'est un projet tout simple, d'une petite maison qui sépare le terrain en deux, qui fait d'abord un petit jardin devant avec la scierie, ici. Et puis derrière, qui laisse de l'espace à bâtir pour d'autres constructions. Puis l'enjeu de ce projet, c'était de pouvoir faire un projet en autoconstruction. Donc voilà, un projet tout petit. Je le décris rapidement. C'est un peu compliqué comme ça, ouais. Il y a donc l'espace d'entrée, qui est un espace en double hauteur, qu'on a appelé la pièce caméléon. Je vais revenir là-dessus. Un petit bureau, la cuisine et puis la partie salle à manger, salon qui lui-même est en double hauteur. C'est une maison qui se développe en longueur. Et puis à l'étage, on a simplement une chambre à coucher, une petite salle de bain, la chambre des enfants qui donne en second jour sur la double hauteur du salon. Donc on voit déjà là que c'est une construction en ossature bois. L'idée, c'était d'avoir une intervention minimum sur le terrain qui était faite par un maçon pour pouvoir créer une dalle. Pardon. Pour pouvoir créer cette dalle qui forme l'assise du bâtiment. Et puis ensuite, de travailler avec des éléments préfabriqués qui sont des demi-cadres en bois lamellé collé. Qui sont ces éléments-là, qui peuvent être manipulés par 2-3 personnes, qui sont ensuite fixés au sommet et fixés sur la dalle. Et puis, il y a simplement l'étage des chambres qui est fait en bois massif. Ce qui nous a intéressé ici, c'est que d'emblée, l'ossature bois, elle permet de gérer un élément très compact, c'est-à-dire de mettre dans l'épaisseur de construction de la structure, de mettre l'isolation. Donc, on arrive comme ça à faire en fait une sorte de tube très simple qui est revêtu à l'extérieur d'un bardage de bois et de tuiles sur le toit et à l'intérieur d'une feuille de bois. C'est un tripli en érable. Donc voilà des images de la construction. Donc on voit que c'est une construction qui s'est vraiment gérée par la famille. Le seul élément qui a nécessité un engin de levage, c'est la grande poutre qui permet de faire l'ouverture de la pièce caméléon sur le jardin. Et puis voilà cet espace qu'on a appelé caméléon. On l'appelait comme ça parce que c'est un espace qui est polyvalent. D'abord, donc c'est une sorte de loggia, si on veut bien, sur le jardin. Et puis, il faut dire qu'on est à 1000 mètres d'altitude. Donc, on a une maison qui est très bien isolée, qui est gérée, chauffée uniquement par un chauffage à bois, un petit poêle. Et puis, cette pièce, elle permet de gérer le climat. C'est-à-dire qu'en été, il y a un volet qui peut se tamiser la lumière du soleil. Et puis, on peut ventiler entièrement cet espace-là latéralement. On peut faire un courant d'air comme une sorte de shotgun house. On peut aussi ouvrir en toiture. Et puis, en hiver, on peut bénéficier au maximum du gain solaire qui chauffe en fait la dalle. Et puis, la chaleur peut ensuite se répartir dans les pièces latéralement. C'est aussi un espace qui peut être protégé du vent, parce qu'il y a pas mal de vent à cet endroit-là, donc on peut vraiment l'utiliser comme une loggia. Voilà l'image de la maison avec ce grand volet qui s'ouvre ou qui se ferme. On a voulu là traiter la façade comme une croision de bois qui rappelle les petites cabanes de jardin ou qui rappelle certaines granges de la région. Voilà une image de la chambre des enfants en double hauteur sur le salon. Le deuxième projet se trouve à Valère-Sourance. C'est aussi une toute petite maison pour une famille qui est située sur un coteau viticole face au village ancien. Et c'est une zone qui malheureusement devait se développer en zone villa. Donc on a dû un petit peu anticiper cette donnée. Donc on a placé la maison de manière à ce qu'elle occupe peu de place sur le terrain et puis de manière à ce qu'elle puisse maintenir deux belles vues sur le site, donc frontalement sur le village, latéralement sur les Alpes, en anticipant en fait la construction de villas futures qu'il y aurait dans le terrain. Et puis un élément aussi important, c'est qu'on a dû rester dans un cube très compact. C'est une maison qui a coûté très peu cher. Donc il y a une chose, c'est qu'on a limité la creuse. On a fait un élément en béton qui gère en fait le rapport au sol, qui travaille en demi-niveau pour avoir un minimum d'excavation. Et puis ensuite, on a travaillé avec une coque en bois sur le même principe de charpente qui vient en fait se fixer sur cet élément de béton pour former l'espace supérieur de la chambre des parents et de l'espace de jour. Il y a également un élément qu'on a pris en compte, c'est que le fait du toit, enfin la pente du toit a été fixée. Donc on a cassé ce fait pour créer ce shed qui amène un second jour dans l'espace de jour. Donc là, on voit le principe. Ici, on est au niveau du ré inférieur, si on veut bien, des chambres qui sont directement en rapport avec le jardin. On a la chambre des enfants, une petite salle de bain. Et puis à l'étage, on rentre par un pont qui sert aussi de place de parc. On a la chambre des parents. Et puis ensuite, on descend quelques marches et on arrive dans l'espace de jour, salle à manger, salon. Alors le principe ici, c'était de pouvoir faire un volume entièrement en tuiles. C'était un peu le challenge qu'on s'était donné en rapport au vis-à-vis du village, qui lui est justement fait de ces grandes toitures de tuiles qu'on trouvait assez fascinant. Tout le travail ici a été de travailler justement sur cet élément de charpente et de trouver la continuité entre la toiture et la façade. Donc c'est un travail de charpente, mais aussi de couverture. Et un peu comme une sorte de robe, on a dû travailler toutes les coutures. Donc on travaille beaucoup sur différentes maquettes. Là, c'est une maquette 1-1 qu'on a fait au bureau avec des vraies tuiles pour comprendre comment gérer les angles, comment gérer le rapport entre la toiture, la façade, pour éviter toutes les ferblanteries. Donc par exemple, le chenot ici est reporté en arrière. On a fait un chenot à la nantaise pour pouvoir avoir vraiment cette continuité entre la toiture et la façade. Puis on voit qu'on a repris le principe d'utiliser en fait l'épaisseur de la structure en bois pour gérer l'isolation. Donc c'est aussi une boîte qui se présente, un volume qui se présente en tuiles à l'extérieur et complètement en bois à l'intérieur. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup d'images du chantier, donc j'ai pris celle-là, mais je pense qu'elle est assez significative. On voit l'élément de maçonnerie de béton qui vient gérer le rapport au sol et puis cette charpente qui vient le recouvrir. Voilà l'image de l'espace du salon à l'intérieur. Donc on voit le deuxième jour du shed. On voit cette grande fenêtre qui regarde le village. Et puis l'intérieur en bois qui est composé de panneaux de sapin. Et puis à l'extérieur, le volume complètement composé de tuiles. C'est de la tuile plate de Bardonnay, juste à côté. Alors je vous ai montré cet exemple parce que en fait il nous a inspiré pour ce troisième projet que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui est un projet un peu plus grand, un projet pour l'institution de Lavigny. Lavigny, c'est un village qui se situe au-dessus d'Aubonne. Et puis ils ont lancé un concours d'architecture pour faire un projet d'abord urbanistique pour transformer la partie ouest de leur site, donc c'est un très grand site. Ici, il y a l'hôpital, des pavillons pour des personnes qui sont atteintes de troubles psychomoteurs, aussi d'épilepsie. Et donc l'idée de ce site était de pouvoir faire des logements qui étaient à la fois pour des résidents qui sont suffisamment valides pour vivre de manière autonome, mais également pour faire des logements pour des logements à loyer, un internat pour les enfants et un centre d'activité. Voilà le site tel qu'il se présentait quand on a fait le concours. Donc c'est une ancienne ferme où on trouve des grands volumes de granges principalement. Et puis l'habitation du fermier, qui est ce bâtiment ici, et un très beau marronnier. Donc voilà, l'idée, c'était la ferme a été déplacée, l'activité n'y était plus, donc c'était des bâtiments entièrement vides qu'il fallait soit démolir, soit restaurer. Notre proposition a été de les démolir, pour plusieurs raisons, ils étaient assez difficiles à reprendre pour la fonction qui était demandée. Et le projet qu'on a proposé, c'était de faire un grand vide, ce grand jardin, qui réunit à la fois les logements qui se trouvent au nord, l'internat, et puis de transformer le bâtiment existant de la ferme pour en faire le centre d'activité. Et ce grand jardin, le principe, c'était de pouvoir réunir les différentes populations, des habitants, des résidents, des enfants, mais aussi de pouvoir s'ouvrir sur le village de Lavigny pour organiser des événements en lien avec l'institution dans ce grand jardin. Voilà un plan des raies. Donc, en fait, pour garder ce jardin commun, on a réuni toutes les entrées en périphérie. Donc, on rentre depuis l'impasse du Marronnier, ici au nord. L'internat aussi trouve ses entrées depuis l'extérieur. Et finalement, toutes les pièces de jour, des logements et de l'internat donnent sur ce jardin. Donc les logements au rez ici sont de plein pied dans le jardin. Je ne vais pas vous passer tous les plans, je donne juste un exemple ici de ces logements. Donc on a des studios en lien avec les cages d'escalier qui sont les logements protégés. Et puis ensuite, on a à chaque fois des appartements en traversant, avec la pièce de jour qui se déploie sur un balcon donnant sur le jardin. Alors là, évidemment, on a été un petit peu peinés de devoir détruire ces très beaux bâtiments ruraux, qui étaient ces grands volumes de tuiles. Et évidemment, dans notre esprit, on pouvait retravailler avec ces volumes-là pour créer les nouveaux bâtiments. Donc on a proposé de travailler avec des éléments, donc c'est une structure en béton, de murs de refend et de dalles en béton. Et puis une coque, de la même manière que le petit bâtiment à Valère-Sourance, une coque en charpente qui fait la continuité entre la toiture et la façade et qui forme ces grands volumes de tuiles, justement. Donc voilà les bâtiments de logement comme ils se présentent aujourd'hui. Ici, on voit le chemin d'accès des entrées, l'arrière des bâtiments. On a traité le principe des fenêtres sur la base des lucarnes qui sont ensuite déclinées en fait, dans la peau en tuiles. Ici, on a des tuiles un tout petit peu différentes. C'est aussi des tuiles plates de Bardonnay. Simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué avec deux longueurs de tuiles pour casser un petit peu les horizontales et puis trouver un rapport, on va dire, une couture un tout petit peu plus fine à l'échelle de ces très grands bâtiments. Mais sur les principes, on a repris les mêmes principes que la petite maison, c'est-à-dire gérer des angles, pas de ferblanterie, et jamais de. Enfin, toutes les coutures entre la toiture et la façade sont toujours faites dans la continuité. De l'autre côté, on a une sorte d'écorché en fait, de cet élément de charpente. Tout à coup, on voit la charpente. Ça forme ces balcons qui donnent sur le jardin. Et là aussi, on s'est inspiré en fait de ce qu'il y avait sur place, de ce qu'on a dû démolir. Donc ces grands couverts de bois qui montraient justement tout l'écorché de la construction. On voyait à la fois la charpente, mais on voyait aussi les chevrons, les lattes à tuiles et les tuiles. Et on a voulu garder cet esprit pour travailler ces balcons. Et donc voilà ce qu'on a fait. Encore une fois, on a travaillé en maquette, on a travaillé avec différents éléments. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que le règlement communal imposait un niveau de corniche à 7 mètres. Et ça imposait, si on veut bien, une sorte de sablière qui se trouvait vraiment dans la vision, en fait, et qui bloquait le rapport au jardin. Donc on a supprimé cet élément de charpente, et puis on a repris chaque élément de chevron par des éléments verticaux qui ont plusieurs fonctions, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est des éléments de charpente, à la fois, c'est des éléments qui permettent d'avoir des éléments porteurs pour ces balcons. Donc on limite comme ça, on n'a pas de pont de froid, puis c'est des balcons autoportants, si on veut bien. Et en même temps, ils ont aussi une fonction de filtre visuel dans le rapport des logements avec le jardin. Vu que c'est un jardin commun, l'idée, c'était de pouvoir trouver un filtre qui faisait qu'on ne voit pas directement à l'intérieur des logements. Et puis, ben voilà, une vision depuis l'intérieur. Donc, on voit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on voit vraiment complètement l'écorché de cette construction. On se sent à l'intérieur de cette coque de tuiles. On a travaillé aussi avec des tuiles en verre pour pouvoir amener de la lumière dans ces loggias. Et puis à l'extérieur, voilà l'effet de filtre dont je parle, c'est-à-dire que quand on est en vision perspective latérale, eh bien on ne voit pas dans les logements, on a seulement une vision frontale sur l'extérieur. On voit que la partie de l'internat, elle est aussi travaillée comme ça. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous présenter tous ces projets les uns après les autres, mais c'est aussi ce principe de coque facettée ici, et également ce principe de bois, de charpente, qui permet de faire le filtre par rapport au jardin. Je peux dire encore juste peut-être un mot sur le traitement du bois. Chaque fois qu'on a du bois qui est en rapport avec les intempéries, on a traité avec une lasure grise qui peut se délaver avec le temps, mais qui permet de garder une sorte d'homogénéité de la teinte du bois dans le temps. Et puis le bois qui est protégé, donc sous les avant-toits, est traité et laissé naturel, en fait. C'est du bois qui est simplement huilé. Voilà la vision du jardin dans l'autre sens. Avec le bâtiment rénové en face, on a simplement rajouté ce filtre également pour un logement, un accès à un autre logement. C'est un bâtiment qu'on vient d'inaugurer, on l'a inauguré hier. Voilà, je voulais finir juste avec ce petit point ici, parce que comme vous l'avez vu, en fait, avec le bois, on ne fait pas des rocket science, quoi. On fait des choses très simples. On l'utilise vraiment dans son aspect de charpente ici. Et peut-être c'est une question qui nous intéresse. Vous l'avez vu, on a observé ce qu'il y avait sur place. On a retrouvé des savoir-faire simples, locaux. On a discuté avec des charpentiers et je pense que c'est dans ce dialogue qu'on a pu trouver la transition entre un site qui était purement rural avec un site qui est devenu, on va dire, un peu urbain. Et là, j'ai mis cette image de la métropole lémanique parce que c'est une vraie question. En fait, aujourd'hui, on parle de densifier des villages, densifier aussi des villes. Et comment on fait cette transition justement entre des sites qui sont essentiellement ruraux et qui deviennent finalement des sites urbains, parce que l'Avigny, c'est un site urbain, au même titre que plein d'autres, même périphéries de villes. Donc là, le bois a un usage assez simple et assez évident. Et puis évidemment, on peut se poser la question, comment on fait pour continuer d'utiliser du bois dans d'autres contextes, qui peuvent être des contextes beaucoup plus urbains. Je pense que la question a déjà été posée, mais c'est une question à laquelle on essaie de réfléchir aussi. Voilà, je vous remercie.
Merci, Julien.